L'obsolescence programmée désigne l'ensemble des techniques qui ont pour but de réduire la durée de vie ou d'utilisation d'un produit pour qu'il soit remplacé plus vite et plus souvent. Philippe Canet a amorcé il y a 2 ans une réflexion approfondie sur ce problème pour en découvrir les rouages et essayer d'y trouver des solutions. Ce diplômé d'EDEC a toujours créé et dirigé des entreprises, il connaît bien le milieu associatif. Il est aujourd'hui co-gérant d'une entreprise de fabrication et distribution de produits alimentaires dans le sud-est de la France et créateur d'Ethicum, une association dédiée à l'éthique en entreprise. Noël Fantoni lui a demandé quelle était sa définition de l'obsolescence programmée.
C'est d'abord une perte de valeur dans tous les sens du terme, puisque c'est une façon technique d'installer dans des appareils un élément qui va faire que l'appareil en question va tomber en panne au bout d'un certain temps ou d'un certain nombre d'usages et qui va donc obliger la personne titulaire de cet appareil à devoir en changer, sachant que dans le contexte de l'obsolescence programmée, il y a aussi la notion de réparabilité, si je puis dire, savoir si est-ce qu'on va pouvoir réparer, est-ce qu'on ne va pas vous inciter à ne pas réparer, mais plutôt à acheter puisque les pièces vont être trop chères, la réparation va être trop chère. Il y a tout un système économique qui nécessiterait une vraie conférence, mais il y a une véritable tromperie, puisque les gens, quand ils achètent un appareil, ne savent pas jusqu'à quel point il est ou pas réparable, ils ne savent que la garantie, et parfois il y a une extension de garantie, enfin il y a tout un système qui met en cause également l'individu dans le fait qu'il ne sait pas, en fait, bien ce qu'il achète, comment il pourra réparer, s'il pourra réparer, etc.
Pour vous, ça n'est pas un mythe qui est avancé par les écologistes, c'est que c'est vraiment une réalité, et est-ce qu'elle est de plus en plus envahissante, je dirais, dans le matériel qu'on peut acheter maintenant dans cette société de consommation?
Alors, elle est d'autant plus envahissante, si vous voulez, c'est qu'il y a des obsolescences programmées, réelles, confirmées sur les imprimantes, avec des fusibles ou des condensateurs qui sont censés fonctionner pas plus que 10 watts et qui sont installés sur des circuits à 12 volts, je veux dire, et qui, donc, sont programmés pour claquer au bout d'un certain temps. On a des exemples de câbles qui ne sont pas prévus pour être remplacés, etc. Il y a des appareils qui sont vendus, des téléphones qui sont vendus avec des batteries qui ne peuvent pas être remplacées. Or, une batterie est faite pour environ 300 usages, 300 recharges. Donc, au bout de 300 recharges, votre appareil ne fonctionne plus et vous devez en changer intégralement puisque vous ne pouvez pas changer la batterie. J'ai des exemples comme ça concrets tous les jours. Mais il y a d'autres obsolescences plus pernicieuses qui sont des obsolescences parce que l'appareil n'est plus à la mode, parce qu'il n'est plus au niveau des hautes technologies du jour, parce qu'on passe de la 2G à 3G à la 4G et bientôt la 5, etc. Et que donc il y a une incitation de façon à l'obsolescence, donc ou technique formelle, ou de toute façon induite. Et donc, c'est tout un phénomène qui est en ligne de cause, qui alors a des défenseurs, puisque l'idée à l'origine de l'obsolescence programmée, c'est de se dire, si les appareils finissent par tomber en panne, à quoi ça sert qu'une ampoule dure 100 ans? Si elle dure 10 000 heures, ça suffira, et on sera obligé de fabriquer d'autres ampoules, donc ça créera des emplois. C'était ça le principe de base, c'était, on fait des objets cassables, qu'ils doivent être remplacés, donc ça crée de l'emploi.
Alors ça, c'est un sophisme ou c'est une réalité aussi?
Ah ben c'est aussi une réalité, mais quel type d'emploi, où sont ces emplois? Ces emplois-là ont remplacé des emplois de réparateurs. Essayez de faire réparer maintenant votre faire à repasser ou essayer de faire réparer votre ordinateur ou essayer de faire réparer votre machine à café et vous verrez le problème que vous avez. Donc de toute façon ça crée des emplois, mais ça a créé des emplois mais ça m'a détruit aussi puisque tous les emplois de réparation ont progressivement disparu.
Donc c'est devenu totalement structurel dans cette société.
C'est hélas devenu structurel, mais bon, heureusement, il y a un certain nombre de personnes qui se sont réveillées. On trouve maintenant des sites qui sont dédiés à la réparation. On trouve des entreprises d'insertion comme à Antibes, Sophia Antipolis, Actif Azur, qui récupèrent des ordinateurs, qui les remet en place, qui les redonnent à des gens qui n'ont pas des moyens ou qui les envoient en Afrique pour équiper des écoles, etc. Donc, il y a aussi tout un cycle maintenant qui est en train de se mettre en place et dans lequel j'ai souhaité m'inscrire en lançant une pétition sur le principe de réparation, puisque tout ce qui encouragera la réparation permettra aussi la création d'emplois ou la recréation d'emplois de réparation.
Ça, c'est un moyen, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de lutter contre cette obsolescence programmée, à part la réparation ?
Il y a d'autres moyens, c'est de faire en sorte que les fabricants de matériel, voire les distributeurs de matériel, aient des obligations de réparer pendant une période raisonnable. On n'est plus à l'époque où on achetait des réfrigérateurs, pour pas dire des frigidaires qui duraient 40 ou 50 ans, mais au niveau des garanties obligatoires, au niveau des modes de fabrication, au niveau des systèmes de recyclage et de l'éco-conception, oui, il est possible de lutter en amont contre l'obsolescence programmée et en aval en faisant un traitement des déchets et des appareils en panne beaucoup plus organisé et même rentable.
Ça suppose un certain nombre de circuits de récupération qui ne sont pas encore en place pour l'instant.
Il y en a certains qui sont en place ou qui se mettent en place, mais c'est pas encore complètement rentré dans les mœurs. Mais il y a un élément qui a énormément contribué à cette prise de conscience. Et je ne fais pas de publicité pour aucune entreprise, mais il y a une entreprise de téléphone qui est le quatrième opérateur en France, qui s'est lancée au mois de janvier 2012, dont je ne le cite pas, tout le monde peut le reconnaître. Eh bien, le fait qu'il ait proposé cet opérateur uniquement des abonnements, alors non seulement bon marché, mais des abonnements non liés à l'achat d'un téléphone, comme on avait l'habitude de le faire, c'est-à-dire pour 1 euro, bah, vous changez votre téléphone en renouvelant votre forfait pour 12 mois, pour 24 mois, etc. Eh bien, cet opérateur a changé le paradigme puisque à partir du moment où vous n'êtes plus amené à acheter l'appareil en même temps que vous vous abonnez, vous devez donc acheter l'appareil. Et achetant l'appareil, vous en connaissez la vraie valeur et connaissant la vraie valeur de l'appareil, vous faites beaucoup plus attention et quand votre abonnement ne s'arrête jamais, eh bien vous le gardez. Et donc si vous le gardez, vous voulez le réparer et vous voulez qu'il fonctionne longtemps. Donc, si vous voulez, il y a un cercle vertueux qui s'est mis en place et une prise de conscience énorme qui s'est faite sur ce phénomène-là par l'arrivée de ce quatrième opérateur en France parce que, justement, vous êtes propriétaire de votre téléphone et vous n'êtes pas seulement locataire de votre téléphone.
Alors justement, est-ce qu'il peut y avoir un retournement de tendance à la fois chez les producteurs et chez les consommateurs pour un certain nombre de raisons? Par exemple, parce que les matières premières sont en baisse, parce qu'il y aurait un retournement de l'opinion qui va préférer réparer plutôt que acheter frénétiquement. Est-ce que vous croyez à ce retournement de tendance?
Moi, je crois que, franchement, en ce moment, il y a une prise de conscience, parce que cette prise de conscience-là, elle ne concerne pas que les appareils, elle concerne aussi la nourriture. Moi-même, je travaille avec mon épouse dans le domaine de la fabrication de produits alimentaires vendus en grande distribution. Nous avons des dates limites de consommation, nous avons des DLUO, des dates limites d'utilisation optimale, et donc il faut que nous fassions très attention à savoir si les dates donc de péremption sont arrivées à terme ou pas. Bon, les gens ne savent pas que en matière alimentaire, les dates de limite de consommation sont simplement une indication et non pas une obligation. Vous pouvez très bien consommer un yaourt qui a 10 jours de péremption et qui est encore très bon. Il sera peut-être plus le même goût, il sera peut-être un peu plus fromage, mais il va pas vous rendre malade. Mais par contre, le distributeur, lui, il est obligé la veille de les sortir de ses rayons et soit au mieux de les donner à une banque alimentaire, soit au pire, les jeter dans des bacs avec interdiction à ses employés de les récupérer, voire même de les donner au risque de se faire licencier. Bon, ben, il y a de toute façon une prise de conscience au niveau de l'alimentation et il y a une prise de conscience qui est en train d'émerger en ce moment, mais de façon exponentielle, justement, sur cette notion de réparabilité. Et c'est pour ça qu'il y a des entreprises qui vendent maintenant des appareils réparables pendant 5 ans, garantis pendant 5 ans, qui louent au lieu de vendre, etc. Donc qui s'engagent à une durabilité et une réparabilité des appareils.
C'était une interview réalisée par Noël Fantoni.